Bien, alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre humble pèlerinage à la recherche du visage de celui qui est présent dans sa création. Et nous allons, évidemment rapidement et pas techniquement, mais parler de ce qu'il est convenu d'appeler le Big Bang, de façon générale, la cosmogénèse, en rapport avec le thème de la création, thème métaphysique mais d'abord religieux, et de la création évidemment que nous traiterons dans la tradition judéo-chrétienne. Ça nous permettra, et c'est là-dessus qu'on terminera, de dire quelques mots sur le temps et l'éternité. Donc tout d'abord, le Big Bang. Je l'avais rappelé le premier jour, en 1905, Albert Einstein pose un principe d'invariance que par une sorte de tournant linguistique étonnant, on appelle une théorie de relativité, alors qu'il s'agit fondamentalement d'une invariance. Mais enfin bon, il y a aussi une relativité, bien entendu. Relativité dite restreinte qui va être complétée, je passe les détails si vous, je pourrais élaborer dans des questions si nécessaire, mais qui va être généralisée 10 ans plus tard, disons de 1915 à 1917, Albert Einstein va généraliser ce qu'il a mis en avant en 1905 et dans une théorie qu'on appelle la relativité générale. Qui est une merveille, qui résout des problèmes laissés pendants depuis Newton, comme par exemple, je dis ça pour les, alors ceux qui ne sont pas physiciens ou qui ne vous fermez les écoutes là, mais il y a un problème que quand on étudie la mécanique, c'est que la masse de gravitation est la masse des lois fondamentales de la dynamique. Il n'y a absolument évidemment aucune raison qu'il en soit ainsi. Et bien, ce type de problème qui était que Newton avait bien isolé, mais bon, qu'il avait fait avec, trouve un cadre formel intéressant avec Einstein. Je referme la parenthèse, c'était une note en bas de page pour les scientifiques de l'audience. Bon. Donc, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et d'ailleurs, il est très très intéressant de voir l'attitude d'Einstein, qui est tout à fait symptomatique de ce que je disais hier, de la recherche et de la réfutation qui est le propre de tout scientifique digne de ce nom. Donc 1915-1917, l'établissement de la relativité générale, 1919, une éclipse de soleil, et il y a une prédiction sur une mesure, disons, observationnelle, enfin d'astronomie, qui va, d'après les équations de la relativité générale, produire une certaine déviation d'un certain signal. Et donc, on voit Einstein qui dit, bon, bah, regardons pour voir si la lumière va se comporter de la manière que prédisent les équations que j'ai mises en avant. Vous voyez, c'est cette attitude ouverte de recherche de la réfutation. Bon, en fait, la réfutation n'est pas venue, c'était conforme, mais enfin, voilà. Donc, 1917, peu de temps après, c'est-à-dire dans la première moitié des années 20, il y a un physicien qui s'appelle Alexandre Friedman, qui va mourir peu de temps après d'ailleurs, en 1925, qui va se mettre à étudier des solutions qui ne sont pas stationnaires, c'est-à-dire qui évoluent dans le temps des équations de la relativité générale. Et Georges Lemaître, indépendamment, un petit peu plus tard, quelques années plus tard, va mettre au jour des solutions qui marquent une évolution, par exemple une expansion des solutions de ces équations. Et ils vont en parler à Albert Einstein, qui va mettre quelques jours à les prendre au sérieux, mais finalement, au début, il n'est pas très très convaincu, mais enfin, bon, au bout de quelques jours, il dit à Georges Lemaître, il écrit à Georges Lemaître qu'il est tout à fait intéressé par ce qu'il a produit.